Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Forum pour la paix a débuté hier à Paris après les célébrations du centenaire du 11 novembre 1918. Un forum où le multilatéralisme a été promu par les officiels, mais parfois mis à mal en coulisses, nous dira Éric Biegala.
Et puis à Palerme, en Sicile, une conférence internationale sur la Libye s'ouvre aujourd'hui, 6 mois. Après celle de Paris qui n'avait rien donné.
Dans ce journal, nous irons également en Californie où 2 incendies ravageurs ont déjà tué 30 personnes. Et puis nous nous intéresserons en France à la course à la tête du parti La République En Marche. Dans la question du jour après ce journal, Guillaume.
Eh bien, pédophilie dans l'église, pourquoi faut-il une commission d'enquête indépendante ? On posera la question à un historien de l'EHESS, Denis Pelletier.
Défendre le multilatéralisme plus que jamais. Hier à la Villette, à Paris, s'est ouvert le Forum pour la paix dans la foulée des célébrations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et en présence de plus de 60 chefs d'État et de gouvernement. Emmanuel Macron, Angela Merkel et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont célébré tous les trois dans leur discours d'ouverture les accords internationaux, leur respect, leur nécessité. Et pourtant, même au sein des institutions multilatérales, par excellence, Banque mondiale, FMI ou UNESCO, la désillusion semble être de mise. C'est le reportage à la Villette d'Éric Biegala.
La table ronde la plus prestigieuse qui ouvrait les débats du Forum pour la paix réunissait justement hier soir les directeurs ou secrétaires généraux des principaux organismes internationaux, le FMI, l'UNESCO, l'Organisation internationale du travail, l'OCDE ou la Banque mondiale. C'est certain, n'hésitez pas à rappeler que tout le monde ne partage pas forcément cet engouement pour le multilatéralisme. Jim Yong Kim, par exemple, le président de la Banque mondiale. Vous savez, a-t-il raconté, j'ai grandi dans une petite ville du Midwest américain et tous mes camarades qui avaient arrêté l'école au collège pour embaucher dans les aciéries, eh bien aujourd'hui sont tous au chômage. Et ça, ça nourrit la colère contre la globalisation et parfois contre les institutions internationales. Même s'ils ne les critiquent pas directement, ils disent en fait que eux, ils n'ont tiré aucun bénéfice de la globalisation. Et ce sont bien ces mêmes personnes et leur colère qui ont amené au pouvoir un Donald Trump aux États-Unis, qui lui dénonce chacune de ces institutions internationales. Mais attention, plaidait à la même table ronde Christine Lagarde, la patronne du FMI, le multilatéralisme ne pourra, pour ainsi dire, pas se passer de l'Amérique.
Si la Société des Nations n'a pas très bien réussi, c'est parce que certains des plus gros acteurs n'en faisaient pas partie. Donc imaginez que par le plurilatéralisme, et en se disant « bon, ben on peut faire sans ceux qui sont hostiles au multilatéralisme », s'imaginer qu'on va réussir comme ça, je pense que c'est un leurre. Donc il faut absolument qu'on arrive à inclure tous les acteurs, des plus petits aux plus gros.
Pour autant, hier, dans cette grande messe du multilatéralisme, un acteur majeur manquait à l'appel, les États-Unis, qui n'ont même pas envoyé la moindre délégation au forum.
Ce forum de la paix est appelé à se tenir tous les ans. Il a pour but donc de promouvoir toutes les initiatives de paix. Doit-il aussi aplanir les crispations d'ordre économique qui voient des pays européens s'affronter entre eux, c'est toute la question. S'agissant par exemple de leur approvisionnement en gaz, il a sans nul doute été question hier du projet Nord Stream 2, un gazoduc venant de Russie qui doit acheminer le gaz russe en Europe sans passer par l'Ukraine et un gazoduc vu d'un très très mauvais œil par les États-Unis. L'Allemagne est en position extrêmement délicate à ce sujet, elle a besoin de ce gaz mais d'autres pays européens n'en veulent pas. L'analyse de Jean-Arnold Vinois, conseiller à l'Institut de l'Or sur les questions énergétiques. Il répond à Marie Viennot.
Avec Nord Stream 2, l'Allemagne va devenir dépendante du gaz russe à raison de 60% de son approvisionnement en gaz. Et donc à une époque où aujourd'hui vous avez la possibilité d'avoir plusieurs fournisseurs, l'Allemagne se met dans une position de dépendance qui n'est pas saine. Et il faut savoir avec un lobby industriel qui est derrière, qui est, pour ne pas le cacher, BASF, et Bayer qui disent « nous avons absolument besoin du gaz russe, qui est actuellement le meilleur marché, et pour notre compétitivité, nous en avons besoin, et si vous ne voulez pas de ce gaz-là, nous, on va délocaliser, et on ira aux États-Unis. » Et donc ça, c'est un autre chantage industriel qui a lieu en Allemagne, pour vous expliquer que la position de Mme Merkel n'est pas totalement simple.
Et alors justement, qu'est-ce qui peut se passer dans une réunion comme ça, un forum de la paix où les gens se rencontrent ?
Alors ben vous savez, M. Trump n'a pas caché ses sentiments extrêmement négatifs vis-à-vis de ce gazoduc. Et M. Trump a une arme nucléaire en main. Clairement, M. Trump pourrait appliquer des sanctions à Shell et à Engie aux États-Unis à cause de leur participation dans ce gazoduc. Et ça, c'est vraiment une arme nucléaire, parce que ce serait considéré en fait par l'Allemagne comme étant une attaque absolument frontale sur ses propres intérêts. Et donc, vous voyez que c'est extrêmement compliqué, extrêmement chaud, et que la situation allemande, la position allemande devient quand même de plus en plus inconfortable.
Jean-Arnold Vinois, le Forum pour la paix doit se tenir jusqu'à demain. Nous y reviendrons avec votre invité des matins, Guillaume, à partir de 7h40.
Jean-Baptiste Lemoine.
À Palerme, en Italie, c'est un autre genre de pourparlers qui doit se tenir aujourd'hui, dont les conséquences sont tout aussi incertaines. La conférence internationale sur la Libye qui s'ouvre sous l'égide de Rome, conférence à laquelle sont conviés les principaux acteurs, politiques et tribaux libyens. Le dernier rendez-vous de cette envergure avait eu lieu en mai dernier à Paris, sans beaucoup d'effets. Les précisions de l'envoyé spécial de France Culture à Palerme, Omar Waman.
Les rivalités entre la France et l'Italie s'étalent désormais au grand jour. En organisant cette conférence, Rome veut reprendre la main, car l'ancienne puissance coloniale qui entretient des liens historiques avec la Libye s'est sentie marginalisée en mai dernier, lorsque la France avait réuni à Paris les principaux protagonistes de la crise libyenne. L'Italie en colère avait reproché à Paris de vouloir faire cavalier seul et de proposer à la hâte un calendrier qui ne tient pas compte du chaos qui règne en Libye. Il y a 6 mois, la réunion parisienne avait débouché sur une date pour organiser l'élection présidentielle, celle du 10 décembre prochain, mais les combats fréquents entre les différentes milices dans la capitale Tripoli, mais aussi dans l'est du pays, conjugués au retard dans le processus législatif, rendent cet objectif intenable. Pour éviter de faire la même erreur, la conférence qui débute ce lundi ne devrait déboucher sur aucune date. Si les principaux acteurs devraient être présents, l'Italie n'a pas oublié d'inviter les pays voisins, comme la Tunisie ou l'Algérie, pour trouver les moyens de stabiliser la Libye avant d'envisager un calendrier électoral.
Une conférence déjà fragilisée avant son coup d'envoi, le maréchal Khalifa Haftar refuserait d'y participer selon des médias libyens. Les forces de ces militaires contrôlent encore la plus grande partie de l'est de la Libye. Dans la bande de Gaza hier, 7 Palestiniens sont morts tués par des frappes aériennes israéliennes qui visaient un commandant du Hamas. Un soldat israélien a été tué lui aussi. Des roquettes ont été tirées en territoire israélien en guise de représailles, sans victimes ni dégâts. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a écourté sa visite à Paris en raison de ces violences.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. C'est l'un des incendies les plus ravageurs qu'ait connu la Californie, une région qui expérimente pourtant beaucoup d'incendies meurtriers. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort hier dans 2 incendies et le nombre des disparus est très élevé.
Oui, il s'agit de 2 foyers, l'un au pied des montagnes de la Sierra Nevada, l'autre près de la station balnéaire de Malibu, près de Sacramento. Des incendies meurtriers qui, selon le gouverneur de Californie, vont devenir une nouvelle anormalité dans les années à venir si rien n'est fait. Reportage dans la ville de Paradise où les habitants ont tous été évacués. De Grégory Phillips.
Dans Paradise, les maisons sont devenues des cendres. Partout, il y a des carcasses de voitures calcinées. C'est une ville fantôme dans laquelle on ne croise plus que des voitures de pompiers et des corbeaux au-dessus des ruines encore fumantes. Quand on a vu les flammes arriver et passer par-dessus la route principale, raconte Jessica, on a pris la voiture. Il y avait du feu de chaque côté de la route. Tout le monde avait très peur. À l'arrière, mon petit garçon et nos 2 chats. Je lui chantais des comptines pour faire comme si ce n'était pas effrayant, afin que lui, il n'ait pas peur. Ce que tous les habitants de Paradise décrivent, c'est une impression de fin du monde quand jeudi matin, ces murs de flammes se sont abattus sur la ville. Un moineau est tombé du ciel, raconte celui-ci, et s'est écrasé sur mon épaule. Il était mort, ok ? Il pleuvait du feu. Cet incendie était différent, et j'en ai connu pas mal dans la région. Vous savez, avant, on redoutait les inondations, constate Roxane, qui a toujours vécu ici, dans le nord de la Californie. Mais ces 3 dernières années, on affronte des tempêtes de feu. Et ils nous disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Avant, on avait peur de la pluie, maintenant on a peur du feu. En un siècle, la température moyenne dans cet état de Californie a augmenté de 3 degrés. Chaque année, la saison des incendies se rallonge d'un jour ou 2. Réchauffement climatique ou pas, en tout cas, il ne reste plus rien ce matin de cette ville de Paradise qui, jeudi dernier, a connu les flammes de l'enfer.
Grégory Phillips. En France, journée d'action dans l'éducation nationale ce lundi. Tous les syndicats des personnels appellent à la grève pour dénoncer les suppressions de postes, et ce dans tout type d'établissements, écoles, collèges et lycées. À Paris, un cortège s'élancera à 14h en direction du ministère de l'éducation nationale. Une unanimité syndicale et professionnelle jamais vue depuis 2011. Il faut dire que le budget 2019, dont la partie éducation sera discutée demain, prévoit de supprimer 2600 450 postes dans les collèges et lycées publics, 550 dans le privé, 400 dans l'administration. 1800 postes seront créés dans le primaire en revanche, mais les personnels ne comprennent pas les réductions d'effectifs dans le secondaire, alors que le ministère prévoit lui-même 40 000 élèves en plus à chaque rentrée entre 2019 et 2021. Pendant ce temps-là, les tractations continuent au sein du parti présidentiel pour remplacer Christophe Castaner à la tête de La République En Marche. Les candidats n'ont plus que 3 jours pour postuler. Ils ne sont toujours que 3 députés, Joachim Forget, Stanislas Guérini et Pierre Persson. L'élection du prochain délégué général est prévue le premier week-end de décembre et cette campagne discrète sur le terrain médiatique est très intense en coulisses, les précisions de Karine Bécard.
Officiellement, le président Macron s'est engagé à ne pas intervenir dans cette élection. C'est vrai que, vu de l'Élysée, Pierre Persson ou Stanislas Guérini, les deux prétendants en capacité de se lancer, sont l'un et l'autre des marcheurs de la première heure, très investis dans le parti, et tous les deux députés à Paris. Donc pas de quoi les distinguer, voilà pourquoi le chef de l'État n'aurait pas pour l'instant de candidat préféré. Ce qui n'est pas le cas, en revanche, de la plupart de ses conseillers. Eux, manifestement, ont déjà choisi Stanislas Guérini, et ce ne sont pas les seuls. Même le secrétaire général de l'Élysée s'en serait récemment mêlé. Il aurait téléphoné directement à Pierre Persson pour lui suggérer de tout arrêter. Quant au déplacement que le candidat espérait faire à Besançon, il a dû l'annuler parce que le maire de la ville, Jean-Louis Fousseret, un proche d'Emmanuel Macron, le lui aurait fermement conseillé. Donc cette campagne, ouverte a priori, est en réalité de plus en plus verrouillée.
Karine Bécard, le temps de ce lundi pour finir, des pluies au nord, du soleil au sud. Du nord de l'Aquitaine jusqu'à la frontière belge, un temps couvert et pluvieux qui va s'étendre ensuite vers le sud de l'Aquitaine, le Limousin, la Bourgogne et la Lorraine. Sur le quart nord-ouest, quelques éclaircies en fin d'après-midi. Ailleurs, le temps s'annonce lumineux avec de belles éclaircies. Les températures comptées au minimum de 7 à 14 degrés. Au plus chaud, il fera de 12 à 20 degrés, Guillaume.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Il est 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, on va évoquer la pédophilie dans l'Église.